Panorama économique.
Bonjour et bienvenue dans ce retour sur quelques informations de la semaine, mais surtout de l'année qui s'achève dans ce dernier numéro de Panorama économique sur Radio Okapi. D'abord, pour l'année 2011 qui s'achève, le ministre des Finances s'était fixé comme objectif consolider la stabilité macroéconomique et éviter de retomber dans un entêtement. 2011 se clôture cependant sur 6,9% de croissance contre 7% en 2010, un taux d'inflation de 15,4%. Les acquis de bonne gouvernance économique de 2010 ont-ils été maintenus en 2011? Réponse dans votre magazine. La République démocratique du Congo a célébré pour la toute première fois la journée internationale de l'épargne. C'était au mois d'octobre. La Banque centrale du Congo, qui a parrainé cette journée, a placé la jeunesse au centre de ses actions. Et pour cette dernière semaine de l'année, le gouvernement de la République a levé mercredi la décision suspendant la communication par la messagerie. Cette disposition sécuritaire a occasionné des manques à gagner importants chez les opérateurs des télécoms. L'économie en 2011 était riche en événements, mais faute de temps, nous ne saurons pas revenir sur tous les faits. Nous ne parlerons que de quelques faits avec notre invité Jérôme Sekana, qui est le patron du magazine économique Galaxy Media, installé, basé ici à Kinshasa. Il est avec nous au studio. Jérôme, bonjour.
Bonjour.
Et surtout, bienvenue dans ce dernier numéro de Panorama économique. Devant ce micro, Daniel Tambinsoni et Rachel Mbikaï pour vous présenter le dernier panorama économique de l'année.
Panorama économique, le dossier.
Une fois de plus, bonjour à tous. Le premier dossier de Panorama économique, l'année 2010 a été l'année de bonne gouvernance économique.
C'est le ministre de Finances, Matata Mponyo, qui l'avait dit le 24 janvier 2011, au cours d'une conférence de presse dressant le bilan de la gestion de l'économie du pays en 2010 et des projections pour 2011. Retour sur le fait avec David Kalinda.
La meilleure gestion en 2010, disait le ministre de Finances, avait favorisé l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPTE. La stabilisation du cadre macroéconomique, la mise en place d'un nouveau code des douanes et d'un nouveau code de marché public. Dans le cadre des perspectives 2011, Matata Mponyo s'était fixé comme objectif consolider la stabilité macroéconomique, éviter de tomber dans le cycle de l'endettement incontrôlé. Cela passerait par l'amélioration du climat des affaires. Fin février 2011, les services du Fonds monétaire international et de l'Association internationale pour le développement, IDEA, ont publié une note consultative conjointe. Cette note portait sur le rapport de mise en œuvre de la stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté de la RDC. Sur le plan économique, ce rapport a évalué les progrès réalisés pour lever les principales contraintes qui pèsent sur la croissance dans les secteurs prioritaires, notamment celui de l'économie et le développement du secteur privé au Congo. Dans ce rapport, les deux institutions avaient salué, entre autres, l'adoption par le gouvernement d'une stratégie dans le secteur agricole en vue de la croissance et la lutte contre la pauvreté au Congo. Pour sa part, le chef de mission du FMI, Robert York, a déclaré au terme de la mission qu'il a conduite du 20 février au 1er mars que la République démocratique du Congo a enregistré des résultats macroéconomiques solides en 2010. Le taux de croissance du PIB a dépassé 7% pour la première fois depuis plusieurs années. Le taux d'inflation est descendu en deçà de 10%. Ces acquis de 2010 doivent être maintenus et consolidés pour 2011. Robert York n'a pas manqué d'attirer l'attention des autorités congolaises au regard de la hausse du prix du pétrole et des denrées alimentaires sur l'échelon international.
Et la dernière réunion du comité de politique monétaire de la Banque centrale du Congo, réunie le week-end dernier, a relevé 6,9% de croissance en fin décembre contre 7% en 2010, comme vous venez de le suivre, un taux d'inflation qui se fixe à 15,4% alors qu'il était à 9% en 2010. Jérôme Sekana, je rappelle, vous êtes journaliste économique et puis directeur général de Galaxy Media, qui produit des magazines économiques à Kinshasa. Les acquis de 2010 auront-ils été maintenus en 2011 à suivre tous ces éléments de fin d'année que relève la Banque centrale du Congo?
Merci beaucoup, Daniel. Laissez-moi d'abord
vous couvrir de fleurs pour le travail que vous abattez depuis que je vous suis avec intérêt, notamment dans les desks économiques, et surtout pour le travail que vous produisez en ce qui concerne Panorama économique. Mais le meilleur pour l'année 2012 à vous tous, parce que nous avons vraiment besoin de vous pour élever les défis de la reconstruction de la République démocratique du Congo. Effectivement, les efforts ont été maintenus, mais dans la douleur. Il y a le cadre macroéconomique est stable. Il faut reconnaître que, comme vous veniez de le dire, on a un taux de croissance économique qui approche les 7%. Nous sommes à 6,9% du taux de croissance économique. Comparé, ça c'est en 2011, comparé au taux de croissance des 7% de l'année 2010. Donc
l'écart est minimisable.
L'écart est minimisable compte tenu également de l'environnement économique que nous vivons. Nous sommes victimes d'une inflation importée et il y a aussi les tensions au niveau des activités économiques avec l'organisation des élections, bien sûr présidentielles et législatives couplées, avec tout ce qu'il y a eu comme problème. Vous savez, l'environnement global du pays pouvait, si on ne faisait pas attention, nous amener à des résultats beaucoup moins intéressants que ceux que nous sommes en train de commenter aujourd'hui. Donc, il y a eu un effort soutenu du gouvernement. Le gouvernement a bien manié le levier de la politique budgétaire et la Banque centrale a bien manié le levier de la politique monétaire.
Jérôme, la RDC a atteint le point d'achèvement, c'était en plein milieu de l'année et le ministre des Finances a dit qu'il faudra veiller à ce que la RDC ne retombe pas dans un surendettement. Vous suivez bien la gestion économique de ce pays, ça, ce n'est pas pour vous flatter. Est-ce que par rapport à l'endettement, est-ce que la RDC a maintenu le cap?
La RDC n'a pas maintenu le cap, malheureusement. Parce que je vous avais dit devant ce micro que le gouvernement n'a pas bien géré certains dossiers. Nous avons les contrats CTC gouvernement, qui, vous savez, CTC était venu en assistance technique à la DGDA. Le problème n'a pas été bien résolu au niveau interne et aujourd'hui CTC a porté plainte contre la République démocratique du Congo en France et exige qu'on puisse lui dédommager une affaire d'un milliard. Nous avons épongé 13 milliards de dollars et là il y a encore un milliard
qui s'ajoute.
Et encore le gouvernement n'a pas su. Et cet argent-là, je suis sûr que CTC va mettre à la disposition des faux vautours et le gouvernement a traîné les pieds pour jouir des 500 000 dollars américains que la Banque africaine de développement a mis à sa disposition pour former les avocats. Parce que il y a l'initiative juridique que la Banque africaine de développement a mis sur pied pour permettre aux juristes africains de pouvoir être formés pour barrer la route au fonds vautour. Et depuis que le président de la Banque africaine de développement, du groupe de la Banque africaine de développement, Donald Kaberuka, avait décidé de mettre cet argent à la disposition du gouvernement, le gouvernement n'a pas encore signé certains documents, n'a pas encore envoyé les dossiers au Parlement, et nous sommes là, l'argent est là, nous continuons à être victimes des fonds vautours. C'est ce qui me fait dire que on n'a pas bien géré et nous avons...
Le risque est grand.
Le risque est grand et... Curieusement, ce sont les deux de trois personnalités qui avaient signé ces contrats se trouvent encore aux affaires et ne cherchent même pas à pouvoir corriger cela alors que nous courons droit vers un endettement encore de la République démocratique du Congo.
Toujours dans ce chapitre, Jérôme, la RDC, quand même, c'est l'économie congolaise qui a pu supporter à plus de 90% l'organisation des élections. Vous avez paraphrasé là, c'était quand même quelque chose à saluer pour 2011.
Le gouvernement de la République démocratique du Congo est à
plus de 300 millions de dollars.
C'est plus de 380 millions de dollars sortis des coffres forts de la Banque centrale de la République démocratique du Congo, soit 95% de l'enveloppe budgétaire pour couvrir les dépenses des élections présidentielles couplées aux élections législatives que nous avons connues en date du 28 novembre 2011. 2011. C'est un exploit, ça nous donne vraiment de la fierté au cœur, parce que là, on est réhabilité dans notre, c'est que il faut un sursaut d'orgueil patriotique. C'est une très bonne chose. Mais là où
notre
ça fait,
souveraineté,
on l'a sauvé, en quelque rallumé, sorte. On l'a sauvé, parce qu'il faut reconnaître que certains bailleurs de fonds qui avaient promis pourtant de l'argent ont traîné le pied jusqu'à la dernière minute. On dirait que ces bailleurs de fonds pensaient que la RDC ne pouvait pas dépenser autant d'argent. Là où ça fait mal, et moi, en tant que contribuable, je l'ai dit haut et fort, c'est la gestion de cet argent au niveau de la CENI. On a assisté à des surfacturations des services et on a mal géré. La plupart de contrats ont été passés de gré à gré, en dehors des normes en la matière. Quand vous comparez certaines factures de la CENI par rapport à au bureau de la CENI qui était partie. Donc, vous allez voir que dans des rubriques de dépenses, parfois on a doublé, mais on est allé même jusqu'à 5 fois plus
ce qui
a été fait en 2006, alors que nous sommes dans un même environnement, nous avons la même superficie du pays, et ce n'est pas normal. Voilà pourquoi, moi, en tant que contribuable, j'exige et je vais militer. Vous savez que je pourrais même initier une pétition là-dessus.
Comme vous l'avez fait pour le service fiscal.
On doit auditer la gestion de notre argent au niveau de la CENI. On ne peut pas accepter. Le gouvernement a fait son boulot, mais les amis qui gèrent la CENI doivent s'expliquer. Il faut auditer. On doit même afficher les résultats avant d'aller plus loin.
Nous regardons, Jérôme, le temps de prendre ce deuxième dossier de la semaine, le deuxième dossier de Panorama économique. La journée internationale de l'épargne, c'était le 31 octobre 2011 et ça se fête chaque 31 octobre de chaque année. Et la République démocratique du Congo l'avait célébré pour la toute première fois en 2011.
Le thème exploité était épargné en RDC pour un avenir meilleur. Oui, c'est possible. Le gouverneur de la Banque centrale du Congo, qui avait lancé cette journée, est optimiste malgré le faible revenu de la population. Pour lui, épargner est une question de volonté et d'organisation. Par ailleurs, l'épargne offre des avantages certains, tant sur le plan micro que macroéconomique. Jean-Claude Massangou.
Pour l'épargne permet d'assurer des revenus qui peuvent devenir importants dans le futur et qui permettent d'envisager l'avenir avec confiance. L'épargne permet de se prémunir contre les risques éventuels et les aléas de la vie au niveau national, de l'industrie financière et de l'économie de manière générale. L'épargne constitue des ressources locales indispensables pour le développement des activités productives, à même d'améliorer la croissance économique, induisant ainsi le bien-être social et la réduction de la pauvreté.
L'épargne aujourd'hui, Jérôme, on se rend compte que la CADECO, qui était la caisse d'épargne nationale au Congo, n'existe plus, hein, et puis à l'occasion même, le DG de cette institution s'était un peu plaint, mais l'épargne.
Oui, vous savez, la Banque centrale a fait quand même un travail. En 2010, on avait une dizaine de banques. Mmh, aujourd'hui, nous en comptons une vingtaine.
Oui.
Et les taux de bancarisation demeurent faibles, mais il y a une toute petite amélioration. Vous parlez de la CADECO. La CADECO a été délaissée par le gouvernement. La CADECO a besoin des subventions. On ne lui donne plus. La CADECO a besoin des réformes. Au moment où je vous parle, la CADECO est en train d'étendre la main vers l'extérieur, notamment vers les Allemands, afin d'obtenir un financement, essayer de faire rentrer dans le capital de cette banque populaire certains investisseurs étrangers. Donc, l'épargne, c'est une très bonne chose. Je suis content de constater que le gouverneur de la Banque centrale s'est adressé à la jeunesse, parce que quand vous regardez la plupart des jeunes, quand vous lui parlez d'un compte en banque, en tout cas, si vous interrogez les jeunes gens, ils vous diront ils n'en ont pas pour la plupart. Et si on doit vraiment permettre à nos jeunes d'épargner et d'avoir un compte en banque, c'est une bonne chose. Mais là où le bât blesse, encore une fois de plus, c'est que la Banque centrale n'arrive pas à maîtriser la thésaurisation. Il faut contrôler la thésaurisation. Il y a une.
Mais comment y parvenir, Jérôme, quelqu'un qui a son argent dans le lit à la maison, comment on peut
la politique monétaire est le relève de la Banque centrale, de notre institut d'émission. Et on ne rapatrie pas tout ce que vous avez comme des sociétés minières, même les banques, il y a des transactions qui se font hors banque.
Hors banque.
Et c'est énorme. La banque centrale doit contrôler. Il y a des masses monétaires importantes qui entrent et qui sortent sans que la banque centrale en soit informée. Et ce qui est beaucoup plus grave, c'est de constater que la plupart des banques que nous avons, ce sont des propriétés des expatriés. Les Congolais qu'on trouve là-dedans, ils ne sont que des figurants. Et il n'y a pas une bonne politique gouvernementale qui pousserait les Congolais à être vraiment majoritaires. Nous avions le BIC avec le président Kindelo, ancien président de la FEC. Il est devenu minoritaire parce qu'il n'a pas tenu le coup. Donc, il y a moyen de faire une bonne politique au niveau du gouvernement pour promouvoir l'épargne et surtout essayer de pistonner les Congolais. La Banque centrale doit revoir sa politique monétaire et faire en sorte qu'on contrôle les capitaux qui entrent. Les capitaux entrent au pays pour acheter les minerais, par exemple, et ressortent et ne sont pas rapatriés conformément aux lois en vigueur en République démocratique du Congo. Il en est de même en ce qui concerne des transferts, même des messageries financières. Il y a beaucoup de choses qui échappent au gouvernement. Il faut que la Banque centrale assume ses responsabilités. Il faut remettre de l'ordre dans ces secteurs.
Espérons qu'avec tous les efforts que la Banque centrale est en train de fournir, tout va rentrer dans l'ordre, peut-être avec le mobile banking aussi, et même le système BSA qui était lancé, peut-être que tout va rentrer dans l'ordre. Prenons ce dernier dossier. Un mot sur le secteur minier de la RDC qui est une des principales sources de richesses du pays, Rachel.
Oui, il faudrait dire que ce secteur a retrouvé un peu de son équilibre en 2011 après la crise financière et économique de 2010. Le cours de matière a repris leur niveau d'avant la crise. Le diamant, l'or, le cuivre et bien d'autres matières dont la RDC est productrice se portent bien sur le marché international. Mais une chose cependant, le manque de transparence de contrats miniers a privé la RDC de près de 80 millions de dollars américains dans les cadres de la quatrième revue du programme économique du gouvernement avec les institutions de Bretton Woods.
Voilà, Jérôme, vous n'êtes pas novice dans ce dossier, le secteur minier de la RDC. Voilà, après la crise économique et financière de 2008, 2009, même 2010, maintenant le marché se remet en place, retrouve son équilibre. Mais ce que nous avons voulu ressortir ici, c'est l'opacité dans des contrats dans ce secteur-là qui a privé le pays de près de 80 millions de dollars d'appui budgétaire. Et même lorsque le gouverneur de la Banque centrale a fait le bilan de l'année 2011, c'était le 29, il a relevé cela jusque-là. Les éléments de la transparence qu'exigeaient les institutions de Bretton Woods ne sont pas encore mis à la place publique, c'est-à-dire ces contrats de Sodimico par exemple et de Gécamines ne sont toujours pas portés au clair.
Voilà, vous savez, les secteurs miniers, quand bien même ils commencent à produire quand même par rapport à l'époque où les activités de la Gécamines étaient enveilleuses, il faut le reconnaître, nous approchons des 400 000 tonnes du cuivre lent, dans l'ensemble bien sûr, mais l'opacité auquel vous faites allusion existe bel et bien, et surtout je dirais même l'arnaque, parce que lorsque les gens quittent New York, arrivent ici, achètent des titres à 30 millions, et arrive à New York sans avoir fait un quelconque travail, ils remettent ça en bourse et ils ont 150 millions. En tout cas, ça c'est extrêmement grave, on nous prend pour des bourriques. Et encore, quand vous regardez de très près ce qui s'est passé, c'est comme si nous sommes les derniers à vivre en République démocratique du Congo. Nous ne nous projectons pas dans l'avenir, on dirait nous devons tout exploiter et les générations futures n'ont pas leur place en RDC, dont la nécessité de faire en sorte qu'il y ait d'abord la transparence et qu'on essaye franchement de remettre de l'ordre dans la boutique. Le secteur minier est un secteur porteur bien sûr, mais nous devons diversifier nos sources des revenus et surtout en ce qui concerne l'État et surtout nous organiser pour que les secteurs miniers contribuent efficacement, donnent la vraie contribution, pas des miettes qu'on donne à l'État. Et vous avez des gens qui se sont arrangés comme ça parce qu'ils ont des relations et qu'ils ont acheté des titres. Ils n'ont rien fourni comme investissement. D'ailleurs, ce sont des sous-traitants, et ils prennent les documents, ils vont là-bas, ils se tapent des millions et ils pensent qu'ils sont les seuls qui peuvent jouir des richesses de la République démocratique du Congo. Et vous savez, les pas de porte ont été bousillés comme des cacahuètes. en République démocratique, des millions de dollars qui doivent être justifiés.
Des centaines de millions.
Et nous avions même demandé, et la Banque mondiale, les Fonds monétaires internationaux avaient demandé qu'on puisse loger toutes ces informations sur, au niveau du site internet du ministère des Mines, mais ce n'est pas le cas. J'ai suivi dernièrement Christine Lagarde, la directrice générale du Fonds monétaire international, qui a dit que, bon, au regard de ce qui se passe en République démocratique du Congo, le FMI est en train de regarder de très près ce qui se passe, mais c'est pour vous dire que nous risquons de ne pas obtenir des appuis budgétaires.
Aujourd'hui, nous sommes le 31 décembre et en principe déjà la cinquième revue du PEC devrait déjà intervenir.
Elle devrait déjà intervenir, elle est mise en veilleuse à cause de ce que Christine Lagarde a dit. Et là, je dois vous avouer que le gouvernement doit s'organiser pour compter d'abord sur ses propres ressources internes. Il faut accroître la mobilisation des recettes, il faut booster les réformes qui sont en veilleuse au niveau des régies financières, et il faut combattre l'impunité, les détournements des deniers publics, la corruption qui est devenue un sport national en République démocratique.
Et c'est peut-être l'occasion de parler, Jérôme, de la TVA qui entre déjà demain, dimanche 1er janvier, en application en RDC. Vous pensez que c'est aussi un moyen pour l'État congolais de se mobiliser?
Bien sûr que oui, c'est un nouvel impôt, parce que vous savez, la TVA va remplacer l'impôt sur les chiffres d'affaires, dont le mécanisme ne permettait pas à l'État d'avoir autant d'argent que l'État aura avec la TVA. Le problème que nous avons toujours dit en ce qui concerne la TVA, parce que d'abord ce n'est pas un impôt qui est destiné à la masse, hein, c'est un impôt qui est destiné à des structures connues qui sont déjà habituées à fonctionner avec l'administration fiscale, ce sont des réformes qui devraient être soutenus en amont. Lesquels, par exemple? Je vais vous donner un seul cas parce qu'on n'a pas le temps. C'est l'identifiant fiscal unique. Avec l'identifiant fiscal unique, on connaît qui fait quoi. On a un répertoire plus ou moins exhaustif des contribuables. Et avec l'identifiant fiscal unique, on peut résorber l'informel. C'est-à-dire, on peut élargir l'assiette fiscale et arriver de manière automatique à encaisser beaucoup plus d'argent. Dans un pays où vous connaissez qui fait quoi, vous avez informatisé les services et vous pouvez vraiment prétendre connaître, avoir beaucoup d'argent, surtout en ce qui concerne la TVA. L'argent appelle l'argent. On ne peut pas mettre la charrue devant le bœuf. Le gouvernement a besoin d'argent. Le gouvernement devrait investir dans les
réformes,
mettre le paquet, soutenir politiquement les régies financières. Au jour d'aujourd'hui, je vous dis, Daniel, les régies financières sont considérées comme des vaches à lait qu'on doit traire jusqu'au sang. Donc,
et voilà.
Et finalement, on se rend compte que ces régies financières ont des limites et il faut les aider. Il faut les aider. Bien sûr qu'il y a des brebis galeuses qui sont là-bas, il y a encore des détourneurs des deniers publics, utilisez tous les mots que vous voulez, mais le problème est vrai, les trois piliers, les trois régies donnent le gros des moyens. Vous pouvez vous imaginer, la DGDA va donner en 2011 à la République démocratique du Congo 1 milliard de dollars américains. Donc c'est énorme. Et nous sommes convaincus que s'il n'y avait pas des exonérations fantaisistes, en tout cas, la DGDA pouvait aller au-delà, la DGI même, et même la DGRAD.
Ce qui va disparaître, ces exonérations avec la TVA. Mais Jérôme, je pense que c'est aussi le moment de dire un mot sur cette République démocratique du Congo qui termine l'année 2011 sans un projet de loi budgétaire pour l'année qui vient. Comment vous avez analysé cette situation?
C'est de l'irresponsabilité. Et du gouvernement
et du
Parlement. Le gouvernement a déposé avec retard et le Parlement a voulu aller battre campagne abandonnant le peuple congolais sans budget. C'est irresponsable. Voilà pourquoi nous les qualifions parfois des inciviques.
C'est une porte de
dilapidation. Ces députés qui ne payent pas les impôts, en tout cas pensent que l'argent va tomber du ciel comme ça, comme la manne, et ils seront le premier à réclamer.
Ils ont exigé les indemnités de sortie.
Ils ont exigé, ils les ont obtenues. Ils avaient droit à 19
milliards
de francs congolais, mais ils les ont obligés qu'on leur donne 29. Donc, le gouvernement a été sommé de chercher 10 milliards qui auraient dû servir à payer les enseignants pour donner ces inciviques.
Et ils partent sans.
Moi, je pense que il faudra qu'on remette de l'ordre. Les parlements qui va arriver, nous attendions que les choses s'arrangent. Nous allons reprendre notre dossier à la Cour suprême et il faudra revoir à la baisse le salaire, non seulement des députés et sénateurs, mais le budget de la présidence, parce qu'il y a pléthore là-bas, à la primature, et même au niveau du parlement, parce que ce parlement-là est budgétivore, et ceux qui travaillaient dans ce parlement-là ne payaient rien comme impôt, et heureusement qu'il y a eu votre sanction.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30 heure de Kinshasa, Radio Capi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance. Reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Les autres infos de la semaine, nous commençons par cette levée mercredi par le gouvernement de la mesure interdisant la communication par SMS.
Cette décision est assortie de quelques conditions à l'endroit des entreprises de télécommunications, notamment un meilleur investissement au processus d'identification des abonnés de ces entreprises. C'est ce que nous explique ici Tarsis Mukindji, président du comité des opérateurs de téléphonie à la Fédération des entreprises du Congo.
En réalité, le gouvernement a émis des souhaits, notamment celui de voir les opérateurs procéder de manière stricte et rigoureuse à l'identification des abonnés, ainsi que à l'accompagnement du gouvernement dans la prise de toutes mesures concourant au maintien de l'ordre public et dans la tranquillité. Tout ce que nous allons faire, c'est donner de manière chiffrée le manque à gagner, quitte à examiner avec le gouvernement les voies et moyens pour la réparation. Aux consommateurs, c'est de continuer à faire confiance aux fournisseurs des services que nous sommes, aux opérateurs, et dans les plus brefs délais dans la journée, j'espère que chaque opérateur sera en mesure de remettre en service le SMS.
Voilà, c'était là Monsieur Tarsis Mukindji, il est le représentant de Télécom au niveau de la FEC, à qui nous présentons également nos voeux de nouvelle année. Jérôme, la communication par SMS a été suspendue pour près d'un mois. Et voilà que la mesure a été levée, mais quand bien même il persiste encore quelques conditionnalités, mais quand même la mesure est levée, mais ça n'empêche pas de relever que la mesure a causé beaucoup de dégâts au sein des activités de télécom.
Oui, vous savez.
Des pertes énormes journalières.
Oui, la sécurité n'a pas de prix. Le gouvernement a pris cette décision et il avait ses raisons. Elles sont plausibles. Mais moi, je voudrais, c'est sur le plan économique. Voilà, si, justement. Par exemple, le manque à gagner est établi, en tout cas, il y aura un arrangement entre les gouvernements. Je suis convaincu que les opérateurs économiques du secteur, n'étant pas de philanthropes, ils exigeront que ça soit imputé dans les impôts qu'ils payent ou les taxes. Mais moi, je reviens encore sur le problème. En ce qui concerne la gestion de ce qu'on appelle la taxe de régulation. Vous savez, chaque appel entrant qui arrive en République démocratique du Congo et qui aboutit au niveau de votre téléphone paye quelque chose comme 20 cents. Et le 15 cents vont tout droit à l'entreprise qui a transporté les signaux jusqu'à... Et là-dedans, vous avez 5 cents qui reviennent de droit à l'État, c'est-à-dire on donne ça à l'autorité de régulation des postes, téléphones et télécommunications. Mais le grand problème ici, c'est qu'il y a un déficit au niveau du gouvernement. Le gouvernement est incapable de pouvoir comptabiliser les nombres d'appels entrants. Le gouvernement est incapable de faire imposer les 10% que doivent payer les sociétés de télécom. D'ailleurs, c'est nous les consommateurs. C'est-à-dire, quand vous achetez votre carte prépayée, en tout cas, l'État a droit à 10% là-dedans. Je vous pose la question, quand vous rechargez, est-ce que vous constatez cela dans votre téléphone? Je dis non. Est-ce que même le rechargement électronique, l'État connaît combien on recharge? Ce sont des milliards de dollars. Alors, on ne doit pas se voiler la face. Moi, je pense qu'en remettant les SMS, parce que à travers les SMS, ce sont les unités qui partent, c'est de l'argent électronique, le gouvernement devrait profiter de cette opportunité pour clarifier. Et on doit arriver à connaître exactement combien d'appels entrants, imposer ces appels entrants. On doit connaître exactement combien de cartes prépayées entrent en République démocratique du Congo. Est-ce que l'État a récupéré ces 10%? On doit connaître exactement le rechargement électronique, le chargement, donc l'imputation doit être automatique comme aux États-Unis. Donc quand vous achetez une carte aux États-Unis, vous chargez automatiquement l'État prélève. L'État congolais n'arrive pas à le faire. D'où la nécessité de pouvoir y veiller. C'est beaucoup d'argent. Il faut reconnaître qu'avec ce qui se passe, la déclaration de l'Union européenne, de Christine Lagarde, des États-Unis et consorts, nous devons compter plus sur nos moyens et il faudra nécessairement qu'on arrive à clarifier. C'est un secteur plus juteux que le secteur minier.
Je veux vous mettre de l'eau dans la bouche, Jérôme. Est-ce que vous êtes déjà arrivé de recevoir un appel de l'Europe avec l'indicatif?
C'est du vol. Nous avons déjà dénoncé ça. Quelqu'un vous appelle de l'Europe, quelqu'un vous appelle des États-Unis.
Mais les appels sont restés comme ça sans suite.
Je vais vous expliquer comment ça s'est passé. C'est un vol organisé. Et ça s'est fait à deux niveaux.
Justement.
L'appel arrive des États-Unis. Mais c'est un numéro local.
Voilà.
Que vous recevez.
Mais
c'est du vol. Parce que chaque société de télécommunications ici a son gateway. Le gateway, c'est un équipement informatique qui permet de recevoir et d'envoyer les appels. Alors, comme chacun, il n'y a pas une plateforme de gateway au niveau de la poste, l'OCPT, le gouvernement a traîné les pieds pour mettre cette structure-là, eh bien, ces gens-là gèrent à leur manière. Et pas seulement au niveau des suites des sociétés de télécommunications, mais il y a des individus, des Asiatiques qui ont installé des gateways clandestins sur l'avenue du commerce ici. Et dans la ville de Kinshasa, qui interceptent des appels provenant de l'étranger et ils consomment tout simplement pour priver l'État des 5 cents d'appels entrants. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand quelqu'un a installé son gateway clandestin, il récupère la totalité, le 20 cents auquel je faisais allusion. C'est un problème. Nous, on dirait que le gouvernement n'a pas besoin d'argent.
Peut-être qu'il y a des gens qui sont...
Vous savez, même quand il y avait le problème ici du contrat chinois, quand nous leur disions qu'il fallait revoir à la baisse cette affaire-là, on ne nous a pas cru. Il a fallu que Strauss-Kahn arrive ici, dise exactement ce que nous avions dit pour que le gouvernement puisse entendre. Nous disons qu'il faut faire confiance à l'expertise nationale. Comme je disais tout à l'heure, le secteur des télécommunications, c'est un secteur qui peut ramener des milliards. Et encore pour terminer, vous pouvez vous imaginer, et c'est scandaleux, que le gouvernement puisse se permettre de vendre la licence de troisième génération, la licence des télécommunications, à 10 millions de dollars, quelque chose qu'on pouvait vendre à 500 millions à l'entreprise Orange de la France qui a racheté cet essai. C'est extrêmement grave dans la mesure où ça devrait se faire par appel d'offres. Et conséquence, les sociétés de télécommunications, Vodacom, Zen et les autres, exigent que cette licence leur soit vendue au même prix. Qui a commis la faute? C'est le gouvernement. Et tout ça à cause de l'avarice des gens, des criminels économiques qui se permettent de faire n'importe quoi comme si on n'a pas droit à la vie des peuples congolais.
On peut atterrir, Jérôme?
Voilà, on peut atterrir. Je voudrais quand même, pour faire le bilan de cette année, il y a à boire et à manger. Je félicite le gouvernement pour ce qu'il a fait. Nous avons atteint les points d'achèvement. Il y a 11 millions de dollars qui sont débloqués pour la réhabilitation des universités de Kinshasa, Kisangani et Lubumbashi, découlant des dividendes, c'est que les retombées du point d'achèvement de l'initiative PPTE. Il y a des hôpitaux qui sont réhabilités. Et surtout, en ce qui concerne les élections, coup de chapeau au ministre Matata Ponyo parce qu'il a été imbattable. Il a instauré une rigueur qui a permis que nous puissions franchement arriver à financer à 95% l'enveloppe des élections. Mais au gouvernement, il y a des choses. Si vous m'invitez au début de l'année, je vais dire, parce que nous n'avons pas l'habitude seulement de critiquer. Nous, quand nous critiquons, nous apportons des solutions, des propositions concrètes. Et nous allons faire l'état des lieux et nous allons proposer des pistes. Vous verrez que nous serons capables de mobiliser en République démocratique du Congo 30 milliards de dollars par an sans appui extérieur.
Merci beaucoup Jérôme, c'est déjà le réveillon aujourd'hui soir, des vœux à tous ceux-là qui ont pris goût de nous suivre sur Radio Capi dans Panorama Économique.
Bien des bonnes choses, quoi qu'il en arrive, quoi qu'il en coûte, notre pays, nous devons l'aimer et personne n'a le droit de nous empêcher de l'aimer, nous devons le protéger jusqu'au sacrifice suprême.
Meilleur vœu Jérôme Sekana, meilleur vœu aussi à toi Rachel Mbikaï.
Oui, merci, meilleur vœu à toi Daniel, à notre invité Jérôme.
Meilleur vœu aussi à toi Patrick Kassongwa et puis à vous tous chers auditeurs, c'en est fini pour cette année 2011, Panorama économique, ce sera pour l'année 2012, très bonne suite de programmes sur votre radio.